Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le temps qui passe a des vertus, dont celle de renforcer le charme de ceux qui, dans leur jeunesse, déjà bien sûr en avaient. Renforcer le charme et le patiner avec cette pointe d'humour distanciée de ceux qui savent, qui ont tout traversé et connaissent le sel de la vie. Gérard Darmon est de cela, avec sa belle voix cuivrée de baryton et, j'ai envie de dire, son profil de pharaon. Je ne cherche pas à faire des rimes. Je reçois un grand acteur qui chante, qui écrit et qui aime. Gérard Darmon fait paraître chez Kero le dictionnaire de ma vie. Alors bienvenue Gérard dans cette émission qui ouvre grande les portes puisque vous savez qu'elle a pour titre « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Donc ça vous concerne ?
Oui, ça me concerne.
Gérard, oui. Réveillez-vous.
Oui, non, je suis là, je ne savais pas si je devais intervenir.
Ah, mais si, à partir de maintenant, c'est vraiment votre émission.
D'accord,
une heure.
Bonjour déjà.
Tout à vous. Bonjour, cher Gérard. Europe 1. Alors, ce dictionnaire de votre vie, c'est donc en fait un thème de réflexion choisi pour chaque lettre de l'alphabet. Alors, tout à fait par hasard, j'ai ouvert comme ça d'abord à la lettre B, sous-titré bisextile, et j'ai lu, je suis né un jour qui n'existe pas, le 29 février de l'an 1948 précisément. Officiellement, j'ai atteint l'âge canonique de 70 ans, mais en réalité, j'ai donc 17 ans et demi. De quelle manière ça influence votre rapport au temps, le fait d'être né un jour qui n'existe pas ?
Écoutez, je ne sais pas si ça influence mon rapport au temps, comme vous le dites, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais môme, c'était très perturbant. De réaliser que j'étais né un jour qui n'existe pas, parce que j'avais l'impression même donc de ne pas exister, j'avais l'impression d'être une espèce de mutant, mais je ne me formalisais pas de cette façon, c'était simplement du 28, ça passait au 1er, quoi. Il n'y avait pas le 29, et je ne comprenais pas, et lorsque le 29 arrivait une fois tous les 4 ans, ça passait très très vite, ça passe très vite 24 heures, il faut attendre 4 années de plus, donc c'était quand même un pinceau, mais quelque chose de... C'était compliqué quand j'étais enfant.
Et il paraît que, justement, la nuit du 28 février, oui. Quand approchait minuit, vous scrutiez les aiguilles du réveil,
oui,
comme si
vrai.
Elle s'apprêtait à faire un tour de passe-passe, oui. En fait, avec votre existence,
absolument.
C'est ça ?
Non, mais absolument.
Je serais zappé ou pas ?
Voilà, non, je regardais ça, comme ça, en essayant de comprendre. Je me disais, bon, ben voilà, ça va passer à minuit une, et puis ça passait à minuit une, mais du 1er mars.
Gérard Darmon, vous avez choisi un métier singulier, puisque lorsqu'on est acteur et qu'on a, comme vous, pratiquement 45 ans de carrière, bah les écrans vous ramènent sans cesse aux images du passé, un passé récent ou lointain.
Oui.
D'ailleurs, je vous ai revu récemment un dimanche soir à la télé dans Rabbi Jacob, vous aviez 25 ans et des cheveux d'ébène.
Oui.
Est-ce que les acteurs ont aussi peur du temps qui passe que les actrices ?
D'une autre façon, probablement, oui. Enfin, on a tous peur du temps qui passe, que ce soit acteur, actrice, homme, femme, médecin, avocat, charcutier. Je pense qu'on a... Enfin, quand on a une conscience de ce qu'est la vie et du rapport espace-temps et ce laps de temps qui nous est octroyé sur cette Terre. Donc oui, on a tous peur de ça. Maintenant, il faut
mais
pas
pire
vivre.
Encore quand on est acteur, parce qu'il y a un rapport à l'image particulier. Mais,
oui, ce qui est assez amusant pour les descendants, pour les enfants, etc. Lorsque je me vois dans un film avec 30 ans de moins, 20 ans de moins, je dis, c'est bizarre, je me reconnais sans me reconnaître, en même temps je comprends beaucoup de choses. Je me dis, tiens, ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas fait ce film après, parce que je me pensais, je me croyais prêt, mais en fait physiquement, c'était pas encore ça. Enfin, vous voyez, il y a plein de... C'est très très particulier de se voir.
C'est-à-dire qu'il vous a fallu du temps pour vous ressembler?
Oui, moi, il me faut, je suis extrêmement rapide et très lent en même temps. Oui, il m'a fallu du temps.
Ouais. Bon, en réalité, le temps qui passe, bah, vous savez parfaitement le tenir à distance, puisque à 70 ans, vous êtes le très heureux papa d'une
oui.
petite fille d'un an et demi, Léna.
Oui, oui.
Mais sincèrement, à l'annonce de sa venue, Gérard Darmon,
oui.
est-ce qu'il n'y a pas eu un petit moment, mais un très très court moment d'angoisse ? De questionnement.
Ah, mais c'était pas un petit moment et un très très court moment. C'était vraiment un vrai questionnement. Bien sûr que oui, on peut pas impunément comme ça, sauf si on est totalement tête brûlée, tête en l'air et ne penser à rien. Et bon, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Bien sûr j'ai convergé, ça fait. Mais en même temps, je me suis dit ça, c'est un cadeau du ciel quand même, parce que j'ai un enfant avec une femme avec laquelle je vis depuis 20 ans. Donc c'est pas faute d'avoir essayé, si je peux me permettre. Bon, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. Alors, ma religion était faite. Hein. Je me suis dit, ok, bon, ben, j'ai trois enfants, tout va bien. Deux filles, un garçon. Et puis, paf, le ciel en a décidé autrement. Donc, on ne va pas aller contre ça.
On ne contrarie jamais le ciel.
Ben, non, pas comme ça, en tout cas. Non, pas du tout. Et puis, je me dis que elle a des frères et sœurs, elle a sa mère, avec qui elle a des rapports fusionnels. Voilà, puis je suis là, je suis encore là. Donc, voilà, jusqu'au moment où je ne serai plus, ben je ferai mon possible. Et puis après, les autres prendront le relais.
Mais quand vous avez appris la venue de Léna, il paraît que vous avez pensé à Belmondo qui est aujourd'hui à l'âge de 85 ans, oui. A une enfance telle-là de 14 ans.
Mais il a eu à 69 ans comme moi, sa fille, voilà, il a 84 ans, tout va bien, il est beau comme tout. Sa fille le connaît, ils ont de beaux rapports, c'est formidable.
Mais vous êtes un oriental, Gérard Darmon. Oui. Un oriental avec, de votre propre aveu, un côté très fataliste. Oui. Alors, de cette culture orientale, qu'est-ce que vous avez l'intention de transmettre à cet enfant qui, pour l'instant, n'a que 1 an et demi?
Mais elle a déjà tout ça. Mais voilà, vous savez, c'est une façon de vivre. Quand je dis à l'oriental, moi j'ai été élevé comme ça, dans des familles très méditerranéennes. Elle est comme ça aussi. Ça va de la nourriture à la musique qu'elle écoute, ça va de ma façon de réagir sur certaines choses. Voilà, c'est ça, l'oriental, c'est pas uniquement lui parler en arabe.
Non mais j'entends bien, mais justement, je voulais élargir le champ, l'horizon.
Oui, oui, oui. Non mais c'est ça, voilà. Je sais pas, vous savez, c'est au fil du temps aussi, voilà, c'est à travers les événements que nous vivons, que nous allons vivre ensemble. Ma façon d'appréhender les choses, la vie, de lui montrer certaines choses, c'est là-dedans, c'est comme ça que j'ai élevé mes trois autres enfants, donc je pense que je vais faire la même chose avec Léna. Oui.
Alors cette voix qui va nous accompagner pendant une heure cet après-midi, et on est gâté, celle de Gérard Darmon, c'est une voix de basse ou de baryton?
Mais c'est vous qui devriez me le dire.
Mais parce qu'elle est unique, elle est si singulière, et puis voilà,
elle fluctue,
justement.
Au gré des heures
des
de la
humeurs.
Journée, oui, des humeurs aussi.
Bon, ouais. Vous êtes en pleine forme, hein. Vous restez avec nous, Gérard Darmon.
Ça va très très bien, je suis très heureux d'être là.
Génial, alors on fait une pause très courte, et on retrouve tout de suite Gérard Darmon.
C'est un artiste à la voix de velours qui se confie à Isabelle Morizet aujourd'hui. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Oui, on est très gâtés cet après-midi puisqu'on se balade en compagnie de Gérard Darmon qui fait paraître chez Kairo le dictionnaire de sa vie. Alors, cher Gérard, bon, franchement, grandir à Paris, rue des artistes,
oui.
Oh, quel signe magnifique du destin.
Non, c'est extraordinaire. Non, mais quand je me retourne comme ça sur les choses, c'est extraordinaire. Deux fois, j'ai eu l'occasion d'habiter... Une fois rue des artistes, une autre fois hameau des artistes, beaucoup plus tard. Donc,
oui.
Je dois être marqué par ça. Non, oui, bien sûr, c'est une petite rue magnifique dans le 14e, à côté du Parc Montsouris. Moi, je suis un enfant du Parc Montsouris.
Alors, vous êtes le fils unique d'une mère juive algérienne qui a grandi dans la région d'Oran et vous confiez « J'ai vraiment été l'homme de la vie de ma mère. J'étais sa force. Tout pour mon fils », clamait-elle. Vous vous retrouvez dans « Le livre de ma mère » d'Albert Cohen.
Ah ben, tout à fait, oui. Tout à fait, mais je ne suis pas le seul, hein, heureusement. Tous les amis que j'ai...
Se retrouvent dans ce livre.
Bah oui, se retrouvent dans ce livre, parce qu'on a tous eu, et c'est le génie, le talent, le génie d'Albert Cohen, c'est d'aller fouiller dans les profondeurs de l'âme et de ce qu'on essaie de cacher, de masquer, de... Vous voyez, aller un peu dans les égouts comme ça, et qui fait ressortir magnifiquement bien avec un verbe très simple, et qui nous touche plein ventre, en plein cœur. Bien sûr que j'ai dévoré le livre de ma mère, bien sûr. Et...
Mais votre père n'a jamais pris ombrage de cet amour exclusif qui vous liait l'un à l'autre, votre mère et vous?
Oh, probablement, mais il ne faisait pas partie de ceux qui se plaignaient de ça. Il a dû le vivre à sa façon, et puis... Il n'avait pas été élevé comme ça, c'était autre chose. Mon père était, vous le savez, vous avez lu mon livre sur lui, sur la vie de mon père. Ça le faisait un peu sourire, ces rapports-là. Il avait envie que je sois un peu plus, un peu moins cotonné, cocooné par ma mère.
Voilà, ouais,
quelque chose un peu,
ouais.
Plus, un peu plus rude, un peu plus... voilà. Donc j'ai fait du sport, j'ai essayé de lui plaire comme on essaie de plaire à son père.
Voilà, parce que c'était un personnage singulier quand même.
Oui,
il a eu
oui,
mille vies, votre père,
oui,
Gérard Darmon.
Oui, oui.
Il a été spahi, Il chargeait à cheval, au sabre. Mmh. On le surnommait Trompe-la-Mort. Mmh. Il était choriste à l'Opéra d'Oran. Au début des années 30, il débarque à Paris, il devient Riquet de la Bastille. Il est danseur mondain, on le voyait beaucoup au Balageau. Puis il devient truand, la guerre éclate. Et alors là, il gagne ses galons de résistant, mais de façon vraiment héroïque, en infiltrant l'ennemi, carrément. Après la guerre, il épouse votre maman. Il se reconvertit en marchand de vin et spiritueux, tout en accumulant les conquêtes. Vous lui avez effectivement consacré un livre, magnifiquement écrit. Mais il paraît que vous ne vous êtes presque jamais parlé. Pourquoi ?
C'était difficile. On s'est dit des choses, on se les a dites avec autre chose que des mots. Voilà. C'était des regards, c'était des moments, parfois même des silences. C'était compliqué. Sur la fin de les 15 dernières années de sa vie, j'étais un peu plus détendu avec lui. D'abord parce que j'avais progressé dans mon métier et que c'était un alibi pour moi. Ça l'avait détendu aussi par rapport à
il
ça.
Il était fier de votre réussite.
Il était très fier et il le montrait parfois avec des manifestations très rares chez lui. Donc ça m'avait touché. J'osais lui mettre la main sur l'épaule et l'embrasser sur le front et lui caresser les cheveux et la tête comme ça gentiment. Et bon, c'était des gestes de fils. Et je le vivais comme une mise en scène, comme un film. Vous voyez, donc c'était pas quelque chose d'extrêmement spontané, ça l'était dans le sentiment. C'était un sentiment spontané. En le vivant, je me voyais en train de le faire. Et je sais que ça lui faisait plaisir. Mais on ne rattrape pas le temps perdu. Hein. Donc, toute mon adolescence, mes premières années, ma vie de jeune homme, d'homme jeune.
Il en était absent.
Pas absent, mais il était à côté. Il était là, mais on peut être là et être totalement ailleurs aussi en même temps. Quoi. Voilà.
Cette voix de baryton velours, j'insiste, parce qu'elle est quand même. Ouais, on va rajouter velours. Elle est hypnotique.
Matinée cachemire,
oui,
soie.
Oui, voilà. Tout cachemire, soie et velours.
Velours lin.
Elle vous vient de lui, cette voix ? Lui qui avait chanté à l'Opéra d'Oran ?
Il avait une voix plutôt grave, pas aussi grave que la mienne, mais il avait une voix grave, si je... oui, plutôt grave.
Vous auriez pu, effectivement, en fait, envisager une vie entièrement consacrée à la musique. Oui. Vous qui avez déjà fait 3 albums, oui, et oui. Vous dont le fantasme absolu eût été d'être Frank Sinatra.
Oui, hein, oui,
faut
oui,
bien
oui,
l'avouer.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est dans l'imagerie comme ça. Oui, évidemment, oui. Mais j'aurais pu consacrer ma vie entière à la musique, et je me demande même si je n'aurais pas dû le faire. Et de temps en temps, quand je suis un peu fatigué...
Ah, vous posez cette question.
Quand je suis un peu fatigué, que je vais un peu mal, j'ai tendance à prendre tout à l'envers. Des jours de pleine lune un peu fatales. Je me dis, j'ai raté ma vie. J'aurais dû être chef d'orchestre. J'avais tellement envie de faire des études poussées de classique, de piano, de savoir de conduire un orchestre. J'aime tellement ça. J'ai tellement l'oreille. J'aurais tellement voulu me consacrer à ça, bien sûr. Ouais.
Alors, puisqu'on est dans la musique, et j'évoquais à l'instant Sinatra, vous l'avez rencontré, Gérard Darmon. Vous avez même dîné avec lui.
Oui.
Dans un restaurant du 15e, à Paris, oui. Et dans votre dictionnaire, qui paraît chez Kero, vous écrivez « Sinatra sentait bon la lavande, le whisky, l'Amérique
». Oui, c'est-à-dire que non, mais moi, je pensais bien que quand j'ai vu ce personnage, cette légende sur pied, déjà me regarder, parce que j'ai été présenté par quelqu'un qu'il connaissait bien, j'ai vu ces deux yeux bleus là, qui ont fait défaillir le nombre de femmes incalculables, tout un pays, cette légende, déjà ça vous fait quelque chose. En plus, il me pose la main sur l'épaule. Ma tessiture de voix, là, elle m'a servi. Ça a dû lui plaire parce qu'il m'a tout de suite...
Vous voyez
oui. Il m'a tout de suite parlé, demandé ce que j'avais envie de boire avec lui. Il m'a mis un peu à part, on a fumé une clope ensemble. Et ça m'a plu. Il m'a posé 2-3 questions comme ça, tout à fait banales. Et puis, moi, j'ai essayé vaguement de lui parler de lui. Et au restaurant... Je le dis parce que c'est vrai, je regardais, il avait commandé un plat de spaghettis, comme tous les bons Italiens, tout ça, et je me disais, est-ce qu'il va y avoir un spaghetti un peu plus long que les autres, comme nous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il l'aspire ? Est-ce qu'il le coupe
slurp.
Avec ses... Oui, slurp, est-ce qu'il le coupe avec
comme
sa dent ?
Comme dans les bulles de BD.
Qu'est-ce qu'il fait ? Et non, c'est... Bah oui, il y en avait quelques-unes qui dépassaient, bah il faisait ça tout à fait comme nous, et c'était bien, il s'essuyait après la bouche, et c'était drôle. Enfin, donc, vous voyez où j'en étais
D'essayer de ramener le mythe à quelque chose de familier.
C'est extraordinaire. Il y avait une grâce, il y avait quelque chose de... Un magnétisme, vraiment un magnétisme. Et quand je l'ai connu, il n'était plus dans son âge d'or d'homme.
Oui.
C'était déjà un homme qui avançait dans l'âge. Mais Classe. Il n'y a rien à dire. Oui, quand je dis. C'est pas un hasard si je dis oui, il sentait. Ça fait partie du magnétisme, il sentait bon la lavande, il y avait quelque chose de propre, de whisky, de tabac au miel. Il y avait une odeur qui était déjà charmeuse en soi, il y avait quelque chose de. Je suis très sensible aux odeurs. Et donc, voilà. Non, mais c'est un privilège fantastique que de l'avoir vu, rencontré, parler et dîner avec lui. C'est maintenant, je réalise seulement maintenant.
Alors Gérard Darmon, je reviens à l'adolescence, le chapitre de Tous les possibles. À 17 ans, vous rêviez de théâtre, mais pas seulement. Vous étiez porté par un idéal qui vous a amené jusqu'en Israël, en Galilée, dans le kibboutz de Hasselelim, près de Nazareth. Vous avez vécu pendant quelques mois une expérience si intense, si marquante, que vous en conservez aujourd'hui encore un souvenir ébloui. Alors on va faire une pause très courte. Et puis on va ensuite prendre le chemin du lac de Tibériade, donc tout près de Nazareth, là où le soleil réchauffe la terre en permanence. Vous serez notre guide, n'est-ce pas ?
Mais très volontiers.
Eh bien alors, on y va, à tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet pour la suite de son entretien avec un acteur qui a du talent, mais pas seulement.
Il a du talent, des convictions, de l'humour. Il revendique sa foi et nous révèle de grands et petits secrets dans le dictionnaire de sa vie. Qui paraît chez Kéro. Je reçois Gérard Darmon. Cher Gérard, Vous aviez 17 ans, cet été 63, lorsque, avec un mouvement de jeunesse, vous avez découvert la terre d'Israël. Alors, les hommes de votre génération, celle de votre père, montaient plutôt d'Oran à Paris, mais l'expérience du kibboutz ne faisait pas vraiment partie de leurs rêves. Pourquoi faisait-elle partie des vôtres ?
Mais tout simplement parce que très tôt, vers 12-13 ans, j'ai fait partie d'un plutôt que d'être dans les scouts ou les choses comme ça, les louveteaux, j'étais dans un mouvement équivalent, mais un mouvement juif, qui était un mouvement sioniste, mais qui n'avait pas la même consonance.
Le même sens qu'aujourd'hui ?
Non, bien sûr que non. Sion, en hébreu, ça veut dire la terre.
Ouais.
Donc le mouvement sioniste, c'était uniquement pour but d'aller peupler le pays, la terre d'Israël. Donc voilà, donc de 13 à 17, 18 ans, j'ai fait ça, ce mouvement où je rencontrais des gens, des mômes du monde entier, de mon âge, en particulier de la Belgique et de la Hollande. Donc voilà, donc le but c'était d'aller en Israël. Donc je suis parti de Marseille en bateau.
7 jours et 6 nuits, n'est-ce pas ?
Magnifique traversée pour voir comme ça apparaître de loin Haïfa et la terre d'Israël. C'est quelque chose, quand vous avez 17 ans, vous êtes... Vous êtes un idéaliste, vous êtes. Il y a encore beaucoup de pureté, vous n'avez pas été encore trop sali par le reste de l'humanité. Donc il y a quelque chose d'enthousiaste, de pur, il y a du lyrisme là-dedans, du romantisme, il y a de l'amour. Et le but était donc que j'ai essayé de travailler pendant près de 3 mois, plus de 3 mois d'ailleurs, au kibboutz. Ce que j'ai fait, le kibboutz constituait une espèce d'idéal aussi, même politique.
Oui, communautaire.
La conscience politique, elle était encore très... elle était en filigrane, hein, c'était pas encore tout à fait dessiné, tout ça. Donc, cette espèce de lieu comme ça, où tout le monde vivait et en communauté, et en même temps avait leur individualité, parce qu'ils avaient tous une maison particulière. Après, ils se réunissaient, soit pour dîner dans un même endroit, etc. Ils travaillaient la terre, et puis il y avait un système de troc. L'argent n'existait absolument pas.
Oui, donc ça c'est tout à fait étonnant.
Oui, c'est étonnant, mais à ce moment-là...
Ça fonctionne exclusivement par un système de troc ?
Oui, c'est pas exactement le troc. Je ne peux pas vous dire exactement. Les habitants, les cultivateurs, les kibboutzniks, donc ceux qui habitaient ça, qui moissonnaient, qui faisaient le poulailler, qui cueillaient les poires, qui cueillaient le coton. D'ailleurs, le poulailler, quand je tombais sur le... C'était à moi de le faire, c'est quelque chose, parce que c'est les premiers Israéliens, je pense, à avoir inventé les grandes batteries comme ça. Alors à l'époque, c'était pas beaucoup, c'était 2000, mais c'était quand même beaucoup. Dans une journée, on sortait de là, on était... Là, le coton aussi, c'était assez particulier.
Puis réveil collectif toutes les nuits à 3h du matin,
voilà,
n'est-ce pas ?
Voilà, avec le fameux petit déjeuner israélien à base de laitage, le pays où coule le lait et le miel. Ce sont les chansons traditionnelles. Donc vous voyez, avec cet idéal-là de jeune homme de 17 ans, j'étais plutôt heureux de faire ça. Je n'avais pas encore tout à fait la conscience politiquement des Palestiniens, de ce qui allait se passer. Je savais qu'il y avait eu une guerre en 1956, je savais que l'entourage d'Israël lui était hostile quand même. Mais vous savez, quand on a 17 ans, on pense que tout va s'arranger avec un baiser. Enfin, vous voyez, on y pense un peu comme ça, puis on pense à autre chose, et puis on se dit, ah, ça va s'arranger, de toute façon, et puis là, puis... voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que je suis allé travailler. Ça m'a bien appris, parce que d'abord ça m'a permis de faire le point et de me dire que c'était pas ma vie.
Parce que vous auriez pu rester.
Oui, j'aurais pu rester, mais non, c'était pas ma vie, quoi. J'avais envie d'autre chose, vraiment envie d'autre chose. J'avais envie de
vous exprimer.
Oui, de m'exprimer tout simplement.
Alors, je reste un moment sur cette expérience au kibboutz. Vous dites que après chaque déjeuner, quand le soleil était au zénith, oui, des philosophes, des rabbins se succédaient pour vous conter l'histoire du peuple juif, de l'Égypte des pharaons jusqu'à l'époque actuelle. Oui. Mais c'était en hébreu, vous comprenez l'hébreu?
Non, pas du tout. C'était pas en hébreu, c'était en français. Il y avait le rabbin qui paix à son âme, qui est parti, la Josie Eisenberg, qui faisait les dimanches matins et qui nous expliquait. Non mais vous savez, quand vous avez 14, 15, 16 ans, parler de Platon, et c'est très très ardu quand même, hein, pour un môme qui a envie d'écrire, de faire rire, d'écrire des sketchs, qui est assez nerveux, ce qui était mon cas un peu. Vraiment, j'étais une puce, quoi. J'étais bourré d'énergie, envie de faire des choses. Alors, et en même temps, assoiffé de connaissances. J'apprenais beaucoup plus par cette voie-là que par celle officielle de l'école, où j'étais très, très mal à l'aise. Je n'étais pas dans le mood de ça. Et puis peut-être que je ne suis pas non plus tombé sur des professeurs qui m'ont intéressé, mais ça, je ne suis pas le seul. Bon, voilà, en tout cas, j'apprenais plus par la bande, moi, que par... comme ça, c'est comme ça.
Alors, Israël est né la même année que vous, Gérard Darmon, en 48. Mm-hmm. Vous avez découvert ce pays en 63, à 17 ans. Oui. Quand y êtes-vous allé pour la dernière fois en Israël?
Ah, ça fait pas mal de temps, je pense. Ça fait
une trop bonne... longtemps.
Oui, ça fait une bonne quinzaine d'années, je ne suis pas allé.
Ah, oui.
10-12 ans, oui, absolument. Ouais.
Et ouais. Alors, quand vous y êtes allé il y a 15 ans de ça, qu'est-ce qui avait changé depuis votre découverte de la terre d'Israël? Et qu'est-ce qui n'avait pas changé? Parce que tant d'événements ont eu lieu depuis vos 17 ans. La jeunesse israélienne d'aujourd'hui est différente de celle dans laquelle vous étiez immergé à l'époque?
Oui, mais tout avait changé. Enfin, les infrastructures, évidemment, avaient changé. L'environnement, Tel Aviv n'est plus... Voilà. Ce qui n'avait pas changé, c'était la volonté farouche de ce peuple de subsister, de survivre, de vivre, tout simplement. Alors, il y a un rapport avec l'armée très particulier qui n'a rien à voir avec nous ici en Occident. L'armée est là, mais c'est quelque chose de... Ils sont protecteurs. Et puis
hommes et femmes endossent l'uniforme pour tous faire leur service militaire.
Tous sur 2 voire 3 ans, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que j'en veux toujours un peu cette façon, ce prisme dans lequel on montre et on voit Israël ici. Quand au journal de 20h, on dit 3 phrases sur le fait qu'il y a une chose qui s'est passée comme ça, en général, qui désavantage toujours les Israéliens. Donc après, on les traite de bourreaux. Après, et puis, on arrive à l'antisémitisme que l'on nourrit avec ça. Alors, moi, je dis qu'il faut faire très, très attention à la façon de regarder les événements là-bas. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà. Il y a des choses qui se passent dont on ne parle pas ici. Non, mais c'est un pays jeune, vif, enfin jeune. Pour un pays, oui, pour un homme, c'est autre chose. 70 ans, c'est pas grand-chose. Voilà, et puis toujours en alerte, toujours... Alors la société israélienne, elle est dure, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas de ceux qui disent que tout est formidable en Israël, hein, loin de là. Et parfois même, sur le plan politique, il y a quand même 2-3 situations et 2-3 décisions que je n'approuve pas, que je n'aime pas. Et bon, mais quand même, sur le fond, c'est ce que je dis toujours, au bout, je sais dans quelle équipe je joue, quoi. Je veux dire, je connais la couleur de mon maillot. Voilà.
On retrouve tout de suite Gérard Darmon.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une conversation à deux voix qui se poursuit entre Isabelle Morizet et son invité Gérard Darmon.
Ce sont les 1000 vies de Gérard Darmon qu'on évoque aujourd'hui. Gérard Darmon et son profil de pharaon, sa voix de basse velours, son humour au 3e, je devrais dire au 17e degré, son charme oriental et sa présence unique à l'écran. Mais oui, Gérard Darmon donc, qui fait paraître chez Kairo le dictionnaire de sa vie. Alors cher Gérard, Vous confiez dans ce dictionnaire, le métier d'acteur est un vrai paradoxe, car c'est un métier d'obéissance, assumé généralement par de grands désobéisseurs.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Oui.
Alors, selon vous, allez, on va faire large, de Rému à Depardieu, en passant par Gabin, Montand, Delon, Tratignan, Devers, ou encore Jean-Pierre Bacri, avec qui vous avez débuté, ou Vincent Lindon, ou plus récemment Dujardin, eh bien, est-ce que ces stars ont fait carrière en étant plus dans l'obéissance ou dans la désobéissance ?
C'est les deux, mon capitaine. Il y a un moment où il faut savoir obéir, et puis il y a un moment où il faut désobéir totalement.
Et quand faut-il désobéir ?
Et je ne sais pas. C'est la frontière est ténue. Moi, je n'arrête pas de le dire. Je le rabâche peut-être. Moi, je préfère qu'on me suggère les choses plutôt que de me dire, de me les ordonner. Bon, c'est comme ça. Ça me regarde, mais parce que désobéir, ça peut aussi vouloir dire être décalé. Ça ne veut pas simplement dire non, je ne ferai pas ce que tu es en train de me demander. Ça veut dire j'accepte ce système, mais moi je suis juste à côté. Et on va me voir aussi. Et c'est ça la désobéissance. Brassens lui disait qu'il aimait bien traverser au clou parce que ça lui permettait d'être un peu plus ce qu'il était. Il aimait bien la désobéissance, Brassens. Je peux pas vous dire quand parce que c'est pas non plus systématique, ça dépend du moment, de qui, d'où ça vient, comment, pourquoi. Vous pensez bien que sur un plateau, si un metteur en scène vous demande, pour lequel vous avez de l'admiration, vous demande d'aller d'un point A à un point B, vous n'allez pas sous prétexte que vous n'obéissez jamais dire ah non, c'est ridicule, c'est grotesque,
bien sûr.
Un idiot, un crétin, il vaut mieux faire autre chose. Mais parfois il y a des choses qu'il faut ne pas faire comme on vous les demande. Et parfois, c'est la bonne voie. C'est très bizarre, mais c'est comme ça.
Alors, Gérard Darmon, Bernard Bimont, votre professeur de théâtre, que vous appeliez maître, vous avez écrit dans une lettre que, certes, vous étiez fait pour ce métier, mais il fallait que vous vous méfiez de vous-même. Et si vous preniez cette précaution, eh bien alors, l'avenir vous sourirait. Qu'est-ce qu'il fallait combattre en vous ?
Tout. Moi, cette faculté d'être, de me détruire, de ne pas pouvoir vivre véritablement des instants de paix et de bonheur, une espèce d'handicapé du bonheur.
Vous avez
ça,
peur du bonheur ?
Non, plus maintenant. De toute façon, c'est par bribes. C'est comme le courage, le bonheur. Hein, on en fait par bribes, quoi. Voilà, ça arrive comme ça. On peut pas dire quand on est quelqu'un de sensible, s'asseoir sur son canapé et dire qu'est-ce que je suis heureux. Alors là, dans la vie, depuis ça, je suis vraiment heureux. Hein. Alors que autour de vous se passe tout ce qui se passe. Quoi. C'est, voilà, il y a un moment où il faut stop.
Gérard Darmon, on a failli vous voir à la Comédie Française. Oui. Et si on ne vous y a pas vu, eh bien c'est parce que la porte du conservatoire a une voix seulement. Oui. Une seule voix est restée fermée devant vous alors que vous aviez passé le premier tour devant les 15 jurés avec succès. Oui. Donc racontez-nous, parce que là, on s'approche vraiment très très près du délit de sale gueule.
J'ai passé le concours du conservatoire, parce que quand on passe un concours, on a envie de le réussir, et que j'ai, quand même, c'était important, parce que d'être au conservatoire, après, ça débouche sur la Comédie Française, c'est autre chose, mais bon, j'ai passé le concours, à l'époque ça se faisait sur deux tours, j'ai passé le premier tour, très bien, et puis le deuxième tour, j'étais recalé avec une voix contre, bon, sur les 15. Donc c'est un peu, on a envie de se dire, je préfère le rater complètement et avoir 15 contre en me disant non, il est nul, plutôt que 14 et plus une qui vous empêche d'y entrer. Donc déception, parce que quand on prépare un concours, c'est pour le réussir, et quand on ne le réussit pas, ben on est renvoyé assez, voilà, là tout à coup, alors là ça gamberge, et là on se dit, je suis rien, de toute façon je suis pas fait pour ce métier, je suis nul, regarde, l'autre il est passé, enfin bon bref. Mais si vous voulez, quand elle m'a dit, parce que c'était une femme, c'était Lise de la Marpe, et à son âme d'ailleurs, elle m'avait dit, vous n'avez pas le physique de la maison,
sous-entendu la Comédie Française.
Oui, la Comédie Française. Donc j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire sur le moment. Et puis j'ai réalisé quand même que c'était on était dans une France très blonde, hein, très blonde aux yeux bleus, une France de Jean Marais, une France de Jean-Pierre Aumont, une France de Gérard Philippe, une France de ces jeunes premiers là qui étaient bon. Les gueules cassées sont arrivées justement avec Belmondo. Et c'était tant mieux, mais c'était pas le moment tout simplement. Et puis le destin, c'est là où je reprends mon bâton de pèlerin et de fatalisme, c'est que 15 jours après, j'ai rencontré Jean-Michel Ribes.
Oui, et c'est lui qui vous a fait monter le premier sur une scène.
Et on a fait 5 spectacles ensemble, voilà. Et puis c'était parti pour le Café Théâtre et pour le théâtre. Donc voilà, ça devait pas se faire. Mais sur le moment, on en souffre. Parce qu'effectivement, oui, c'est un délit de gueule. Et c'est pas agréable.
Alors j'ai appris une chose curieuse, Gérard Darmon. Il paraît que...
Si vous êtes une femme. Alors ça m'a étonné, vraiment. D'ailleurs là, j'en profite.
Mais écoutez, vous ne croyez pas si bien dire. Ah bon ? Il paraît qu'à l'époque, justement, ou à une voix près, vous avez raté l'entrée au conservatoire, vous adoriez travailler les grands rôles féminins, comme Phèdre.
Ah, alors ça, c'est... Alors vous voyez, je suis content que vous me parliez de ça, parce que j'ai donné récemment, on me l'a gentiment proposé, et j'ai gentiment accepté de faire une masterclass au cours de Jean-Laurent Cochet, et avec des élèves absolument magnifiques, ils étaient 150 là-dedans, et on a passé 3 heures absolument... merveilleuse. Et c'est une pédagogie, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça, j'aimais bien cette pédagogie, j'aimais bien enseigner, j'aimais bien passer comme ça les choses, et eux apparemment y ont été sensibles. Et je leur disais, ce que vous faites là, vous jouez pas la comédie dans un cours, c'est un laboratoire, on fait des brouillons, et puis on les jette, et puis le lendemain on revient, et puis vous n'allez pas travailler des choses que vous allez jouer tout de suite, donc pour les hommes, prenez des rôles de femmes. Moi, je travaillais Phèdre, je travaillais des Hermione, je travaillais des... C'est elles qui vont travailler, vous voyez, parce que c'est Racine qui avait travaillé tous ces gens-là. C'est pour fouiller,
c'est nuancer la palette.
Oui, c'est pour nuancer la palette, c'est pour élargir l'instrument, c'est pour... On s'en fout de la façon dont on le joue. Personne ne m'a proposé Phèdre depuis que je fais ce métier. Mais quand même, j'en ai des souvenirs, je sais ce que ça m'a apporté sur le souffle, tout ça. Pour les femmes, j'y prenais des grands textes, prenez Ruy Blas, prenez des choses comme ça, allez-y, lâchez-vous, donnez... C'est ça qu'il faut faire dans un cours, il faut prendre des risques, il faut...
Alors, justement, au cinéma, le grand public retient... Allez, Le Cœur des Hommes, La Cité de la Peur, avec Les Nuls, Le Grand Pardon, Astérix, Mission Cléopâtre. Mais au théâtre, vous avez joué Shakespeare, Victor Hugo, Edmond Rostand, Alfred de Musset. Par exemple, Le Don Juan de Molière, Gérard Darmon, vous aimeriez vous en emparer?
Ah j'aimerais bien. Il y a Don Juan, il y a Alceste, il y a le Misanthrope, bien sûr, mais tout ça, ce sont des personnages. On se dit, ouais, alors tous les ans, un acteur qui fait, bon, soit le Misanthrope, soit. Là, il y a. À un moment donné, il y a eu une mode, la mode de Richard III. Les acteurs ont envie de faire Richard III, je comprends. Bon, moi aussi, j'ai eu envie de le jouer. Et puis après, j'ai vu ce qu'en a fait Pacino dans About Richard. Je ne me souviens plus quel était le titre. Enfin, c'était bon. Les grands textes classiques, pourquoi pas, bien sûr. Mais on ne m'en a jamais proposé. Maintenant, moi, je suis à un âge et à un moment où je peux moi-même déclencher ce genre de projet, c'est vrai. Bon, je présume que Wilson, dans son Misanthrope, il doit s'éclater, que Auteuil, dans le Malade Imaginaire,
absolument.
Aussi. C'est formidable de faire ça, bien sûr, c'est très très bien. Mais il n'y a pas que ça, aussi. Hein, y a des auteurs modernes, vivants, qui sont là, qui sont très, très forts, qui parlent des mêmes choses, puis qui parlent des vices, des hommes, des travers, ce pourquoi le public vient nous voir au théâtre in vivo.
Sujet inépuisable.
Et voilà, pour rire de leur faiblesse. C'est pour ça qu'on va au théâtre, c'est pour rire de nous-mêmes. Sinon, on reste chez soi à regarder le 20h.
On retrouve tout de suite Gérard Darmon.
Gérard Darmon est avec nous depuis 15h. Sur Europe 1, Isabelle Morizet retrace son parcours tout en évoquant son actu. Et son actu, c'est un livre.
Gérard Darmon se dévoile dans le dictionnaire de sa vie qui paraît chez Kairos, mais révèle aussi des choses inattendues avec nous cet après-midi sur Europe 1. Alors, cher Gérard, j'ai appris que le 17 juin 2012, vous avez été naturalisé marocain à titre exceptionnel par le roi Mohamed VI.
Oui.
Pourquoi le choix de cette nationalité, puisque votre famille est d'origine oranaise, donc algérienne?
En réalité, mes aïeux sont du Maroc qu'on appelait à ce moment-là le Maroc espagnol. Qui était de la région de Tétouan. Tout ça, ce sont des gens des montagnes, des gens du Rif, des Rifi.
Oui.
C'est ça la véritable origine. Parce que quand ils sont arrivés d'Espagne, ils ont fait une halte au Maroc. Toute cette région de Tétouanaise. Voilà, ça a d'abord été ça. Puis ensuite, pour les plus courageux, ils ont pris leurs deux jambes et ils sont allés à pied jusqu'en Algérie.
Alors, vous dites vos aïeux, c'est-à-dire, par exemple, votre arrière-grand-père ?
Oui, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Mais ils avaient fait des recherches hein, pour le savoir. Oui, c'est arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Ouais.
Mais qui a eu l'idée de cette naturalisation ?
Mais c'est une discussion, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une discussion comme ça que j'ai eue avec le frère de Sa Majesté, le roi, et que je voyais de temps en temps à l'époque. Et je lui disais, vous savez, Monseigneur, moi ça fait plus de 30 ans que je vais au Maroc et je me sens chez moi parce que je suis marocain dans l'âme, je suis plus marocain qu'algérien, puisque l'Algérie, je l'ai connue dans mes 10 premières années, mais, et puis j'en ai eu des effluves par mes parents, mais sinon, le Maroc... Cette façon de vivre, les Marocains, je les connais, j'aurais adoré être Marocain. Ah, ça en est resté là. Et comme tout ça, la semaine d'après, je l'ai revu, il m'a dit, vous savez, j'ai parlé à mon frère, donc le roi, et il est tout à fait d'accord pour vous accorder la nationalité. J'en ai pas cru mes oreilles. C'est très compliqué d'avoir la nationalité marocaine. On l'a pas comme ça, même quand on est né sur le sol marocain, c'est très compliqué. Donc là, j'ai fait une lettre de motivation.
Oui. Hein,
c'est très amusant de commencer sa lettre à recire.
Oui.
Mais oui, tout à coup, on pose le stylo, on se dit, je suis en train d'écrire un roi. Quoi. Je ne sais pas combien de fois ça va m'arriver dans ma vie.
Tout à l'heure, on parlait de Shakespeare, on parlait de Racine, et ben voilà.
Voilà. Bon. Ben, c'est bon.
Et donc, cette lettre de motivation a été lue comme elle devait l'être.
Comme elle devait l'être. Et j'ai ensuite envoyé une lettre de remerciement parce que je suis allé à Rabat. Les choses ont été faites très vite parce que par ce canal-là, ça va très très vite. Ce que des gens... Là, c'est un énorme privilège. J'étais très conscient de le vivre parce qu'il y a des gens qui attendent un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Voilà. Moi, ça s'est fait en deux heures.
Mais alors, il y a eu véritablement une cérémonie avec le roi Mohamed VI ?
Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais à la mairie, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, de Rabat.
Parce que je pensais que vous alliez nous emmener dans les fastes des mille et une nuits et nous raconter au palais comment s'était déroulée cette cérémonie.
Non, pas du tout. Ça s'est fait d'une façon assez administrative, mais ô combien symbolique et ô combien forte. T'es très puissante, j'étais très fier. Je suis très fier, d'ailleurs.
Mais qui de votre famille était présent, Gérard Darmon ? Vous étiez seul lorsque... Vous étiez seul ?
Oui, je suis allé seul, absolument. Ma femme n'a pas pu venir, elle était occupée ailleurs, je ne sais pas quoi, donc je suis allé seul.
Et vous êtes retourné après cette cérémonie dans cette région du Tétouane, au nord du Maroc, qu'on appelle donc le Maroc espagnol, où vivaient vos aïeux ?
Ils avaient organisé un voyage pour que je puisse retourner sur les lieux. Tout ça est bien fait avec beaucoup d'élégance.
Ah oui.
Oui, beaucoup d'élégance. Mais je commençais un tournage de film, je n'ai pas pu faire ce petit voyage-là, je le regrette. Mais je me promets d'y aller. J'ai envie d'aller comme ça, de Tétouan, et puis ensuite en Algérie, où étaient mes parents.
Est-ce que la France qu'on regarde depuis les terres d'Afrique du Nord est la vraie ? Et inversement, est-ce que depuis la France, on comprend bien les enjeux des deux pays de vos ancêtres, l'Algérie et le Maroc ?
Ni l'un ni l'autre, je crois.
Ni l'un ni l'autre.
Non, ni l'un ni l'autre. Il y a quand même cette mer, cette Méditerranée qui nous sépare. Il y a une histoire qui nous sépare. C'est très compliqué en Algérie. Je le comprends. Et je le comprends. Maroc, c'est autre chose, mais ils ont aussi d'autres raisons. Vous savez, tous les colonisateurs, c'est compliqué après quand ça s'arrête. Moi, j'ai eu le privilège d'être en Afrique du Sud quand l'apartheid a été fini et que Mandela est arrivé au pouvoir. Je tournais à ce moment-là, là-bas en Afrique du Sud. Évidemment qu'il y avait une colère, un danger permanent. Mais d'un autre côté, comment ne pas comprendre ça ? Comment ne pas comprendre ce peuple qui a été mutilé, qui a été étouffé, qui a été humilié pendant des années ? Comment voulez-vous que tout à coup, ils se mettent, parce que l'apartheid est terminé, à aimer tous ces gens-là et à les prendre dans les bras et tout ça ? Non, il y avait une rancœur tout à fait légitime et je peux comprendre ça. Ça fait hélas partie, c'est la nature humaine, ça.
On s'interrompt un bref instant et on reprend le voyage avec Gérard Darmon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Suite et fin, on retrouve Isabelle Morizet.
Le Grand Pardon, Les Princes, 37 de le matin, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, La Cité de la Peur, Le Cœur des Hommes, bien sûr, Le Fil Rouge, c'est lui la plus belle voix du cinéma français, Gérard Darmon, mon invité. Alors cher Gérard, comme votre dictionnaire qui paraît chez Kairo se décline au fil des 26 lettres de l'alphabet, bah forcément, il y a un moment donné où on arrive sur la lettre V que vous avez choisi d'évoquer par ce verbe, vieillir.
Oui.
Et vous avez décidé de commencer en fait par cet aphorisme magnifique de Victor Hugo, un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges. Voilà. Mmh. Et vous avez fini par cette citation de Jules Renard, la vieillesse, bah, c'est quand on commence à dire « Ah, moi, je ne me suis jamais sentie aussi jeune. »
Oui, c'est exact.
Alors, vous en êtes où de votre rapport à l'âge, Gérard Darmon ?
Pour l'instant, à chaque fois que j'annonce mon âge, et quand, tant que je vois une espèce de petite surprise dans les yeux de mon interlocuteur ou triste, ça me va. Et puis, intérieurement et intrinsèquement, je me sens, je touche du bois vraiment bien, petit pépin comme ça, à droite à gauche, mais c'est vraiment pas
bon,
très
déjà,
grave.
Vous êtes un homme aimé.
Oui. Oui, absolument. Mais oui, oui, non, mais bien sûr, tout ça compte.
Alors ça, c'est la vie privée, mais le métier d'acteur, qui est aussi un métier de compétition, il faut bien le dire, est-ce qu'il permet vraiment de philosopher avec l'âge ?
J'espère que ça ne... Non, ce qu'il ne faudrait pas, c'est vouloir jouer des personnages qui ne sont plus de mon âge. Des quadras ou même des quinquas. Il y a un moment, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, on me propose maintenant beaucoup de rôles de père, soit d'indépendant qui n'a jamais eu de vie familiale, soit de rôle de père, voire peut-être de grand-père même. Et pourquoi pas ? Moi, je trouve ça très très beau. C'est formidable de pouvoir avoir les rôles à chaque décade de décade de sa vie. C'est très très bien. Après, l'appréhension, voilà, je l'explique bien, je veux pas être d'accord avec la phrase de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Et pourtant, physiquement, quand parfois on a un peu plus de mal à se déplier, quand on est un peu plus lent sur certaines choses, quand je me surprends en flagrant délit de ça, je vais deux fois plus vite, ça m'exaspère. Alors, j'en suis là, mais c'est ça fait partie intégrante de ma vie, de ce que je respire. Voilà, je vais avoir 71 ans quand même. Donc, alors, il y a des grands aînés. Moi, j'ai vu sur scène Salvador à 87 ans. J'ai vu Charles, j'ai vu Aznavour à 93
Vous
ans.
Vous avez vu Robert Hirsch ?
J'ai vu Hirsch. Bon, ce sont des gens qui défient absolument le non pas le temps, mais enfin oui, tout ce qu'on pense sur la vieillesse et l'handicap d'eux, etc. Il faut l'accepter. Je pense que la meilleure façon de ne pas en souffrir, c'est de l'accepter.
Alors, vous défendez d'être nostalgique, pourtant vous l'êtes un petit peu,
mais
nostalgie n'a jamais empêché d'avoir des projets, et je sais qu'ils sont nombreux, vos projets.
Oui,
il en est où, par exemple, ce quatrième album de chansons que vous nous promettez ?
Eh ben, il est un peu plus d'actualité que d'habitude. Je suis en train de mettre des textes un peu les uns sur les autres. J'essaie d'en écrire moi-même. J'essaie de rencontrer des gens. J'ai pas de réseau et je connais pas très bien moi tout ça. Alors j'ai des envies. J'appellerai bien machin pour voir s'il veut me faire un texte ou si ça lui. Je suis toujours très 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 humble par rapport à ça. Je me dis mais non, je vais pas le déranger pour ça. Il va pas vouloir.
Vous êtes trop pudique, Gérard Darmon. Bah, vous n'osez pas demander.
Oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, absolument.
Après trois albums et qui ont bien marché, vous n'osez pas demander.
Il faut que ça se fasse, quoi. Il faut vraiment que je me pousse ou qu'on me pousse vraiment à mettre mon index sur le téléphone et dire allez, vas-y, appelle-le ou appelle-la. Voilà, oui, parce que je suis comme ça. Et puis, je peux avoir aussi le pire des culots, hein. C'est pas le problème. Mais bon, si je raisonne trop, oui, je suis comme ça, c'est vrai. Mais il est en route.
Dans ma tête, alors, oui. Ça nous plaît bien. Et ce projet de film que vous peaufinez et réécrivez depuis 3 ans et qui convoquera le souvenir de la plus grande star du cinéma populaire des années 30 à 60, il va voir le jour.
J'aimerais bien qu'il voit le jour. C'est très compliqué. Ce scénario fait peur.
Alors, déjà, il faut nous dire autour de qui il tourne
autour de Fernandel, il s'appelle Fernandel, c'est moi. Donc c'est très difficile, il y a des gens très sérieux qui ont essayé de s'en occuper et qui ont essayé de mener la chose jusqu'au bout. Et c'est difficile, il y a une espèce de frilosité, et puis il y a aussi une mode, il y a un mood en ce moment dans les comédies, il ne faut pas sortir d'un certain créneau. Alors ça va de Danny Boone à info.machin.com, je sais pas quoi, les trucs sur les babysitters. Ce genre de comédie ou le bon Dieu ou les trucs comme ça, ça c'est carré, c'est bien, c'est un peu voilà, c'est un peu sociétal,
c'est le mood du temps,
voilà, c'est comme ça. Mais quand on a un truc un peu barré, voilà, ça intéresse beaucoup les Belges, et ça ne m'étonne pas parce qu'ils sont eux bien barrés.
Mais il y a beaucoup de films belges qui reviennent en France et triomphent.
Alors je ne désespère pas
pourquoi pas une production belge.
Oui, voilà, je ne désespère pas de le faire et d'aller le faire en en Belgique, pourquoi pas.
Et pourquoi, Fernandelle, c'est vous ?
C'est trop long à expliquer. C'est un, c'est,
d'une manière relativement non, mais parce concise.
Il va revenir sur Terre, il va prendre possession de mon corps à certains moments, pas tout le temps, ce qui va me faire faire des choses avec mon physique, mais avec lui à l'intérieur, très particulières et très bizarres.
Mais pourquoi Fernandelle ?
À Fernandelle, parce que j'aime profondément Fernandelle, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que c'est quelqu'un qui me fait rire, c'est quelqu'un que je ressens comme si c'était un oncle que j'ai bien connu. Ça, j'y suis extrêmement sensible, et depuis toujours, et ça continue.
Gérard Darmon, qu'a-t-on oublié de se dire ?
Moi, j'adore bavarder avec vous, et j'adore votre émission, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est la troisième fois que je viens.
Et c'est pas la dernière, à très vite.
À très vite.
Je vous embrasse.
Vous aussi.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » et cet entretien avec Gérard Darmon. Vous pouvez bien sûr le réentendre en replay et en podcast sur Europe 1.fr. On retrouvera Isabelle Morizet dès samedi prochain, 15h sur Europe 1.